Maintenant, on va donner de la parole à Anne Barrère pour son retour à elle. Et pareil, après, on aura quelques questions éventuellement d'explicitation, d'approfondissement, mais toutes les questions qui seront mises en débat seront traitées spécifiquement cet après-midi.
Bien. Merci Françoise, merci à tous. Donc j'avais une injonction impossible à tenir, celle d'être impertinente. Si je suis impertinente, j'obéis à Françoise. Et donc mon impertinence est relative. Et si je ne suis pas impertinente, je ne le suis pas. On reconnaît bien là l'injonction qui rend fou. Ou qui rend folle, mais j'ai essayé de ne pas devenir folle. Je n'ai pas eu non plus énormément de temps, même si j'ai eu énormément d'intérêt à bien des égards à tous vous écouter hier. Alors, indécence, du moins impertinent, ça peut être non pertinent, complètement à côté de la plaque. Donc, essayons aussi de ne pas l'être. Je voudrais quand même vous dire d'où est-ce que j'ai fait ce retour, hein. Je suis sociologue de l'éducation, j'ai travaillé sur le travail enseignant comme sociologue, sans véritablement m'inscrire hein, dans les paradigmes expliqués par Richard très clairement hier d'analyse de l'activité, mais en faisant une sociologie de travail assez classique sur les enseignants. Et puis peut-être l'autre point d'où je parlerai rapidement, c'est sur l'évaluation, c'est d'une enquête sur les chefs d'établissement hein, que j'ai conduite, qui est la plus récente, et où j'ai un tout petit peu travaillé la question d'évaluation telle que les chefs d'établissement la voient. Je me permettrai, hein, puisqu'il faut être impertinent et léger, hors sujet comparatif là-dessus. J'ai une demi-heure, j'ai quoi, 40 minutes. D'accord. J'ai essayé de regrouper mes remarques en 5 points, qui sont peut-être, des titres. Le jeune enseignant est-il un autre ? L'analyse et l'évaluation contre dans un milieu critique. L'analyse et l'évaluation dans un milieu critique. 3e point, le continent oublié du travail. 4e point, spécialement dédié à Anne avec un clin d'œil scientifique et amical, les fantômes de l'évaluation. 5e point, le métier de formateur est-il un métier impossible ? Le jeune enseignant comme altérité. Je voudrais rappeler aussi, pour c'est un paravent, pour me couvrir, que je n'ai jamais travaillé sur les jeunes enseignants, même si j'en ai croisé dans mes enquêtes, et je n'ai jamais travaillé sur la formation. Et quand j'ai commencé à assister au séminaire hier, il m'est venu l'idée d'une forte altérité de cette situation du jeune enseignant. A priori, rien à voir avec l'enseignant ordinaire tel que j'ai pu l'écouter, le faire parler dans mes enquêtes. Le huis clos de la classe est rompu par la présence du formateur, par le film aussi, là, qui finalement nous rendait visibles. Alors, je suppose qu'on peut faire des films sur des enseignants qui ne sont pas débutants, mais cette condition-là est importante. Le travail de l'enseignant, du jeune enseignant, est objet d'intérêt, d'analyse. Ces jeunes enseignants sont avides de conseils, de par leur situation. Ils acceptent la critique, ils s'en inquiètent. Ils paraissent tous les deux que l'on a vus, conscients d'une nécessité de leur changement professionnel, d'un développement. Ils ont envie de changer, ils ont envie de progresser. Quel rapport, me suis-je dit, au fond, avec les enseignants dont on ne peut pas postuler comme cela, qu'ils soient tous dans une demande de développement professionnel, comme le dirait Richard, et qu'ils le sont sans doute à certains moments de leur carrière, pas à d'autres. Enfin, c'est une problématique complexe. Et puis, au fond, je me suis dit, non, le jeune enseignant n'est pas un autre. Et j'ai retrouvé un certain nombre de choses à l'écoute des films, qui m'ont très fortement renvoyé à mes propres enquêtes. Alors, dans des termes peut-être plus sociologues, qui sont parfois un peu plus, je sais pas comment vous dire, brutaux, enfin j'en sais rien, que les analyses proposées, mais cela m'a renvoyé un certain nombre de perspectives. Cette centralité de la classe. Alors, et évidemment, je vais l'interroger, tout le séminaire hein, est centré sur le travail dans la classe de l'enseignant. Cette centralité de la classe, le fait que les premiers évaluateurs, et c'était très visible dans les films, ce sont les élèves. qu'on s'évalue d'après les élèves, et de plus, ce qui est aussi une sorte de, parfois, d'écran faussé, on s'évalue d'après le comportement des élèves. Ils ont fait n'importe quoi, ils sont partis partout. Alors, j'étais un peu inquiète parce que je suis très spécialiste du secondaire et j'ai montré beaucoup ça sur le secondaire. Mais alors là, je me disais, bon, la donne du primaire est exactement la même, hein, cette espèce de réaction de la classe relationnelle, ce bruit, cette agitation quand même, larvaire qu'on sent aussi chez Dominique, hein, un peu constamment dans les deux. C'est ça aussi qui renvoie à une image synthétique, une image aussi sans doute faussée, et qui empêche de voir les autres problèmes. Et je me suis retrouvée là, au cœur de cette problématique, puisque moi, dans mes enquêtes, et contrairement à ce qui a été dit dans un atelier, je pense que ça, ce n'est pas valable que pour les enseignants débutants, eh bien, d'autres chercheurs l'ont montré, hein, cette ambiance de la classe, cette ambiance relationnelle de la classe, et la première évaluation. Une évaluation qui, parfois, pour les enseignants, va complètement s'autonomiser, d'autres évaluations sur d'autres gestes, sur des préoccupations cognitives, d'apprentissage. Alors ici, dans les deux cas qu'on voit au fond, ce qu'on renvoie les formateurs, c'est qu'une partie des problèmes cognitifs, ou peut-être des manques en termes de résultats, viennent précisément de cette gestion de classe, etc. Mais ce que j'ai observé dans d'autres cas où il n'y a pas de problème de gestion de classe, c'est qu'on s'évalue par ce relationnel. Globalement, ça a roulé, ça n'a pas roulé. C'est une évaluation binaire, ça va, ça a marché, etc. Et là, oui, les jeunes enseignants sont des enseignants. Le travail des formateurs vise à poser d'autres questions, à réencastrer des gestes, des apprentissages cognitifs, je ne veux pas employer le vocabulaire d'Anne mal, des apprentissages cognitifs dans, en fait, cet humus relationnel global. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement frappant. De même que l'inquiétude, la fragilité des enseignants, de même que aussi cette idée de métier idéal, de métier réel, qui renvoie à ce que Claude appelle l'activité empêchée, hein, et qui est présent, d'après moi, au cœur du travail enseignant. Donc les jeunes enseignants, oui, sont bien des enseignants, je dirais, comme les autres, même si les protocoles employés ici font que cette classe ouverte et quelque chose d'extraordinaire qu'il faut souligner. Alors, deuxième point, analyser, évaluer dans un milieu fortement critique. Le milieu enseignant est fortement critique. Les enseignants ne cessent de se critiquer. Il y a des jeux de réputation que j'ai observés dans les établissements, des jeux de classement constants, des jeux de critique constants. Et figurez-vous que dans ces séminaires, je les ai retrouvés, ces jeux, les formateurs... À ma grande surprise, hein, parce que en fait, on était centré plutôt sur l'analyse de l'activité du stagiaire, etc. Les formateurs dans les groupes où j'étais se sont mis à descendre allègrement les formateurs des films en disant mais c'est complètement nul, c'est pas inductif, c'est pas bon, etc. Alors que moi, qui suis pas formatrice, j'ai trouvé tous les deux pas mal ces formateurs. Bon voilà. Ça m'a rappelé aussi ma stupéfaction après la projection du film de Bégodeau où tout le milieu a tiré à boulet rouge. Alors que bon, Bégodeau a son style, hein, comme tous les profs, mais il me semblait qui étaient posées là, un certain nombre de donnes communes du métier, qui les résolvent d'une manière ou d'une autre, mais le milieu s'est mis à fusiller. Bon, alors, du coup, je me suis dit que ces démarches proposées par les trois équipes, moi aussi, j'ai fait Rouen, Marseille, j'ai essayé de répondre à vos différences, comme je pouvais, comme les autres, mais les trois équipes proposent, dans un milieu fortement critique, une analyse objectivée et une évaluation instrumentée qui précisément rompt avec des jugements à la fois rapides, intuitifs, émotionnels, qui sont vraiment le lot quotidien du milieu enseignant et du milieu de formateur, apparemment, que je connais beaucoup moins bien. Donc, je trouve que c'est intéressant. Cette analyse et évaluation objectivée, je dirais, pour reprendre la dichotomie de Claude, à la fois essaie d'introduire dans le genre enseignant un certain nombre de réflexes qui n'y sont pas forcément acquis. Ils construisent le genre. Moi, je voudrais dire à quel point aussi toutes ces analyses, dont je me sens quand même partie prenante, contribuent socialement à faire reconnaître la complexité, la difficulté du métier d'enseignant. C'est un peu leur valence politico-sociale, hein, en dehors de scientifiques. Et je pense que tout ce continent, qui est quand même assez récent et de plus en plus riche, est extrêmement important dans la recherche. Je dirais aussi, comme l'a dit Richard, que
le genre, reconstruire le genre, faire reconnaître le métier, la complexité, mais aussi aborder les styles, les individus, la reconnaissance cette appropriation dans le genre de ce qui vous est propre, avec ici une différence entre le jugement rapide et puis, je dirais, l'analyse de l'activité de l'individu. Le jugement rapide, moi je crois qu'une des raisons pour lesquelles les enseignants n'arrivent pas à parler des choses importantes, c'est parce qu'effectivement, il y a trop de styles où du coup le métier est surindividualisé. Moi j'aurais pas fait comme ça, donc etc. Je pense que ce que proposent les trois équipes, c'est une prise en compte de la singularité, le mot a été prononcé, mais une prise en compte outillée et armée qui permette de montrer que cette singularité, eh bien, elle se construit en transversale et que cette singularité répond à, au fond, moi j'appelle ça épreuve, répond à des tensions qui sont communes au métier. Donc d'après moi, rien à voir entre le jugement à l'emporte-pièce qui vient du fait qu'en fait on n'exerce jamais le métier d'enseignant de la même manière, et le métier de formateur pareil apparemment, et puis ce que proposent les trois équipes. Alors, moi, je circulerai rapidement ce que j'ai vu comme différence. J'ai répondu sans savoir, enfin, c'était la consigne des ateliers. Et puis, chaque fois, je dirais peut-être pour la discussion, un manque, enfin, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais peut-être une question que je me suis posée ou des exemples qui m'ont manqué. Moi, il me semble que l'équipe de Rouen donne de l'importance à une dialectique entre la professionnalisation comme proposition sociale, institutionnelle, et le développement professionnel de l'individu. Il me semble que cette équipe sous-entend le fait qu'il n'y a pas forcément de cercle vertueux absolu entre les deux, et qu'il peut y avoir un certain nombre de tensions, même si, petite question sans être une question, il n'y a pas eu, enfin quand je suis passée dans l'atelier, forcément d'exemples de conflits. Mais il y a une dialectique identitaire ici, où il y a quelque chose de complexe, entre l'offre de professionnalisation, la définition par l'institution et le développement professionnel individuel. Je dirais que l'équipe de Toulouse a très fortement marqué cette différence entre analyse, évaluation, puis reconnaissance. On n'a pas eu le temps d'aller trop dans l'atelier vers cette histoire de reconnaissance qui, je pense, est extrêmement importante. Avec ce moment, je dirais, cette conscience du moment où on met de la valeur dans l'évaluation. On met de la valeur. Et l'analyse, c'est pas la même chose que la valeur, que cette évaluation. Je trouve que c'est très très, c'est une rupture qui est importante scientifiquement pour une équipe de recherche, mais qui est importante également, je pense, dans une activité professionnelle. Et voilà quelque chose de la méthodologie de recherche qui, pour moi, peut circuler vraiment dans les métiers, y compris d'ailleurs dans le métier enseignant, en apprenant à faire un certain nombre de constats sur le travail des élèves, etc., avant d'évaluer. Je trouve que ce geste, je ne sais pas si tu appellerais ça un geste, est extrêmement important. Avec une question, c'est qu'aujourd'hui, comme le montrent beaucoup de gens, y compris des sociologues, je pense à Deroux, etc., les valeurs sont plurielles aujourd'hui dans le système éducatif. Il y a des controverses de valeurs. Et donc, mettre de la valeur, ça ne peut qu'être aussi mettre en débat un certain nombre de choses. Ce qu'on n'a pas vu, sans doute faute de temps, par rapport à des exemples. Mais il y a des controverses sur les valeurs, et l'école est entre plusieurs mondes, plusieurs systèmes de valeurs, comme disait De Rouet. Et parfois, éduquer, c'est précisément arbitrer entre ces valeurs. Alors, sur l'équipe d'Aix-Marseille, moi, ce que j'ai entendu, c'est non pas que l'évaluation était forcément mise sur le côté, mais j'ai entendu une définition très particulière de l'évaluation qui est intéressante et qui est impertinente, tout autant que mon propos, puisque j'ai entendu que l'évaluation était pas seulement celle des résultats de l'activité, mais était celle des conséquences de l'activité sur le travailleur, avec un poids extrêmement important accordé aux effets subjectifs de l'activité sur le travailleur, et avec l'idée aussi que cette évaluation subjective, certainement, autre petite question, je souligne comme ça des choses qui peuvent peut-être être prises, elle peut rentrer fortement en tension, effectivement, avec l'autre évaluation qui serait celle des résultats de l'activité, même si là aussi, il n'y a peut-être pas eu le temps d'en souligner quelques exemples, peut-être vécus, etc. Voilà comment j'ai lu cet effort, donc je crois commun, complètement commun, des trois équipes. Le continent oublié du travail. Tout le séminaire a été centré sur la gestion de classe, bien sûr, puisque c'était des visites de classe qui étaient filmées. Bon, ma définition du travail enseignant était une définition plus large dans le secondaire, où justement, je pensais que se centrer uniquement la vision sur la classe, oublier toutes les autres tâches qui rentrent dans le travail enseignant. Et même si la gestion de classe reste au fond une sorte de moment fort synthétique aussi de l'activité. Alors, on réussit plutôt son métier si on réussit en classe. Personne ne va dire qu'on réussit son métier si on corrige bien ses copies ou si... Bon, c'est vrai qu'il y a une valence synthétique et que c'est le cœur de l'activité. Pour autant, il y a un back-office, il y a d'autres tâches. Alors, j'ai été frappée, j'interroge les équipes, mais aussi les formateurs, sur ce back-office. Que fait le formateur de ce back-office, mais aussi... Alors, que font les équipes de recherche? Ça, je le vois un petit peu plus. Par exemple, le travail de préparation. Alors, cette fiche de préparation a quand même fait l'objet d'un moment hein, dans la visite. Il a été questionné dans un atelier, certains formateurs disant qu'ils ne faisaient pas de fiche de préparation et que, du coup, l'enseignant expérimenté était là très à distance de l'expérience du stagiaire à qui l'UFM... Alors, j'ai appris ça, moi aussi, par une autre journée d'études. Fait faire des fiches complètement incroyables d'auto-prescription extrêmement documentées. Mais au-delà de la fiche de préparation, hein, qui était quand même là, est-ce que la formation s'intéresse à ce back-office? Par exemple, à la charge de travail du stagiaire, par exemple, à la manière dont il prépare ses cours. Par exemple, j'allais dire à ce que j'ai appelé, moi, les épreuves du travail enseignant, et en particulier, je pense à la charge mentale du travail qui est investi dans la vie privée, à côté de la réflexivité éclairée que proposent toutes les équipes de recherche. Il y a, je le pense d'après mes recherches, une réflexivité embourbée de l'obsession de la chose qui n'a pas marché, du retour un peu stérile sur l'élève sur lequel on focalise. D'ailleurs, il y a un exemple là. Elle focalise sur un des enfants qui est particulièrement indiscipliné. Est-ce que le formateur, finalement, s'intéresse à ça? J'ai fait une erreur en lisant le PowerPoint de Anne. J'ai lu protection de soi au lieu de projection de soi, un moment sur le PowerPoint. Et donc, cela revient avec l'équipe de Marseille à se demander si le rôle du formateur va jusque-là. Voilà, mais j'en sais rien. Autre tâche, l'activité d'évaluation. Alors là, je pense que je suis un peu décalée parce que je pense que dans le primaire, même si socialement, on sait très bien qu'aujourd'hui, le primaire construit l'itinéraire social comme le secondaire, je pense que la tâche d'évaluation est moins dramatisée par les élèves, qu'ils en voient moins les contours. Enfin, je parle sous votre contrôle, je n'ai pas travaillé sur le primaire. Mais là aussi, cette tâche d'évaluation, cette tâche de correction de copie, qui est au centre aujourd'hui quand même de la fonction sociale des enseignants, et sur lequel moi j'ai trouvé que les enseignants du secondaire faisaient un déni. C'est une tâche désagréable qu'on met de côté, etc. Alors que c'est le cœur pour les élèves. Mais là, je suis un peu décalée par rapport au primaire. Je ne pense pas que ce soit le cœur de l'expert. Non, enfin, j'en sais rien. Bon. Je peux être décalée par rapport au primaire. Hein. Mais en tout cas, quid de cette tâche qui n'existe pas, qui n'a pas existé vraiment dans le séminaire. Et enfin, last but not least, les référentiels de compétences enseignants depuis pas mal d'années, en tout cas depuis 98 dans le secondaire, prônent un travail en équipe dans l'établissement, etc. J'entends bien que pour quelqu'un qui vient une fois par semaine dans une classe, qui connaît pas bien l'établissement, etc., la chose n'est pas aisée, mais je voudrais quand même poser le problème de la prise en charge de cette conception élargie du métier dans la formation, qui là aussi n'est sans doute pas évidente. Avec l'idée, je me suis dit qu'au fond, c'était le formateur qui était l'établissement. C'était le formateur qui était... La conception élargie du métier dans la phase de formation. Mais est-ce si vrai que cela? Est-ce que c'est pertinent? Je me le suis demandé. Donc Voilà ce continent oublié du travail enseignant, y compris dans la gestion de la dispersion des tâches. Je viens de lire le livre dans le train, le livre de Françoise Lantôme, La souffrance des enseignants, qui est donc, voilà, elle travaille tout à fait, enfin, elle fait le même type d'enquête que moi sur le travail enseignant, mais elle insiste. Ce que moi, j'avais pas eu, mais voyez, l'enquête date déjà, elle insiste sur cette impression des enseignants d'être dans un travail dispersé. Moi, je l'ai trouvé très très fort sur les chefs d'établissement. Mais du coup, on se dit que la formation est complètement ramassée sur un moment du travail, qui est un moment évidemment clé, mais qui n'est pas le seul. Les fantômes de l'évaluation. De quelle évaluation s'est-il agi durant ces deux jours ? D'abord, quand même, de deux types d'évaluation. J'en rajouterai un troisième. L'évaluation telle qu'elle est prise en charge par des équipes de recherche. Et, deuxièmement, l'évaluation qui est mise en œuvre sur le terrain par les formateurs, mais avec une grande circulation entre les deux. Je dirais une grande... avec l'idée qu'il y a de fortes passerelles entre les deux, je soulignerai quand même deux petites tensions. Il s'agit d'une évaluation qui repose sur un travail d'analyse. Je vais dire des banalités, mais je vais dire des banalités pour montrer que c'est pas toujours comme ça. Il s'agit d'une évaluation en temporalité longue. Il s'agit d'une évaluation qui s'appuie sur un travail relationnel riche, complexe. Il s'agit d'une évaluation, je parle des équipes de recherche, qui n'a pas de lien à la sanction sociale, qui a des liens avec des résultats de recherche. Il s'agit d'une évaluation, je parle de l'équipe d'Anjoro, qui se donne une éthique de comportement et des critères éthiques. Elle parle de reconnaissance. Il s'agit, et ça c'est le grand absent du séminaire quand même, il s'agit d'une évaluation qualitative, qui s'occupe de résultats, mais qui jamais ne se donne comme borne ou comme repère des résultats chiffrés. Ce qui est le grand absent du séminaire, c'est pas les résultats. Il est question de résultats de l'activité, de l'engagement du travail, etc. Ce sont les résultats chiffrés, tels qu'ils déferlent sur le système éducatif et sur les établissements depuis une vingtaine d'années. Donc, cette évaluation conseil, je l'appellerai évaluation conseil, est effectivement une forme d'évaluation. J'insisterai sur le fait que quand elle passe au formateur, avec à peu près le même modèle, on voit apparaître deux types de tensions. Une tension sur la temporalité. Les formateurs l'ont dit, le disent, je ne sais plus si c'est des films ou les formateurs dans les ateliers, on n'a pas le temps d'eux, il faudrait analyser, mais il faudrait aller plus loin dans ce truc-là, mais etc., etc. Soit on choisit, puis ça a été des critiques sur les films aussi, que la première formatrice, elle parlait un peu de tout, mais un peu de rien, qu'elle prenait pas le temps d'analyser des choses, ce que font les équipes de recherche, qui ont tout le temps qu'ils veulent pour analyser tout ce qu'ils veulent, et qui peuvent avoir 3 mois pour analyser 3 minutes d'interaction. Deuxième petite tension qui apparaît ici, la sanction sociale. Je dirais que, enfin, je crois pas que ça ait changé, le peu de pourcentage de stagiaires finalement non titularisés fait que cette sanction sociale reste, certes là, mais elle est pas, c'est pas les élèves, hein, c'est pas le couperet constant des redoublements, des réorientations, etc., ça n'a rien à voir. Bon, il y a une sanction sociale qui est là, bien, qui stresse un peu, mais elle est assez lâche quand même si la deuxième stagiaire, hein, est quand même très fortement habitée par cette idée. Mais je dirais peut-être au sens d'âme qu'elle est plus habitée par une reconnaissance de ses progrès. Est-ce que vraiment elle a peur pour sa titularisation? Ou est-ce qu'elle demande... Donc un lien assez lâche. Tout ce continent, effectivement, de l'évaluation conseil est une chose. Lorsque j'ai travaillé sur les chefs d'établissement, qui sont une population dont il faut rappeler qu'ils ne sont en aucun cas résistants à la culture de l'évaluation, qu'ils sont adhérents dans l'ensemble à la culture de l'évaluation. Je me suis retrouvée à constater, lors d'un travail ethnographique d'un an dans un collège d'éducation populaire, d'éducation prioritaire, je me suis trouvée à constater une situation toute différente. Donc j'attire juste votre attention. Analyse, non. Alors, eux, qu'est-ce qu'on leur prescrit ? D'abord, ils ont des résultats chiffrés, qui sont les résultats de leurs établissements. et qui sont plus ou moins bons, qui sont plus ou moins bons que le voisin, et ils doivent piloter en fonction de ces résultats chiffrés. Analyser, ils voudraient bien, ils n'ont pas le temps. Donc, cette temporalité longue est exclue, et donc elle est rabattue sur une logique bureaucratique que vous avez évoquée quand vous avez dit les compétences on coche. Bon, les compétences on coche, c'est ça. On n'a pas le temps de faire autre chose, on coche. Donc, c'est rabattu sur une logique bureaucratique. Par ailleurs, l'analyse, ils voudraient bien la faire, mais il s'agit de faire une expertise locale qu'ils ne savent pas faire, et ils ne savent pas la faire parce que c'est très difficile, parce que les chercheurs eux-mêmes... parfois l'établissement ils l'ont repéré, mais c'est totalement multipolaire, il y a plein de variables qui peuvent jouer, etc. D'où mon chef d'établissement s'est demandé toute l'année si c'était parce qu'il était plus sympa que l'autre chef d'établissement qui avait 2% de points de plus de réussite au brevet, même si c'était en REP, mais lui il était odieux avec les enseignants et lui il était gentil, donc il se demandait si être odieux avec les enseignants c'était plus efficace. Ce qui est intéressant comme problème, d'ailleurs, parce que c'est un problème éthique. Et moi, ils me prenaient à témoin. Moi, je disais, vous savez, en France, c'est pas trop, les effets du management et tout. Il était en demande d'expertise et il savait pas le faire. Dernier point, pas sur celui-là, mais sur mon corpus. L'évaluation, dans ce cas-là, et ce pilotage par les résultats sans analyse avec des sanctions chiffrées, induit des tensions relationnelles terribles dans les équipes. Puisque la moins-value de l'équipe de mathématiques peut conduire à sucrer le projet de mathématiques qui était par ailleurs fortement impliquant des enseignants. Donc, je décris ça non pas pour, j'espère du tout, contrarier Anne, mais pour dire que l'évaluation aujourd'hui est l'objet de véritables guerres de signifier. Qu'est-ce que l'évaluation aujourd'hui ? Et entre l'évaluation conseil que j'ai eu le plaisir de vous voir expliquer, décliner, etc., et qui me paraît porteuse de professionnalité, qui me paraît porteuse de discussion, qui me paraît porteuse de relations, et ce qui se passe dans d'autres contextes, avec peut-être ce point de référence qui est le rapport aux chiffres, aux résultats chiffrés, je vois une énorme différence. Et puisque c'était mon sujet de recherche, je me permets encore un petit mot. Je trouve qu'il y a une évaluation d'en haut et une évaluation d'en bas. Je trouve que le mot, c'est la même chose, c'est le même mot, pour des choses totalement différentes. L'évaluation d'en haut, c'est l'évaluation de Tello, de Forestier, mais aussi d'Anne Jorot et de son équipe, de Richard Witorski, de Marie-Christine Félix. C'est-à-dire, c'est une évaluation qui a le temps de la complexité. Et d'ailleurs, ce qui est fabuleux, c'est que quand vous comparez Tello à un chef d'établissement, Tello, il vous dit, oulala, enfin c'était Emma avec qui j'avais discuté, Emma, il vous dit, oulala, l'effet établissement, mais on ne sait pas du tout, pourquoi ? Il faut être très prudent, c'est très compliqué, il y a des tas de variables, il y a des tas de causalités, mais vous allez voir le chef d'établissement. Lui, il vous dit, il y a un effet d'établissement, l'aide individualisée, c'est efficace, et d'ailleurs, j'en mets partout. Bon. Oui, mais quelle est la différence entre les deux ? Hein, alors que l'IRÉDU a montré que non, etc. Je peux toujours lui répondre ça pour faire ma bêcheuse. Hein, je peux toujours lui dire ça. Bien. Je ne dis pas ça du tout. Parce que quelle est la différence ? Les uns, y compris les chercheurs, évaluent, ont des processus extrêmement intéressants et prudents d'évaluation, mais n'agissent pas avec l'évaluation. Ce qui est problématique, c'est le mariage à court terme, dans un lieu précis, de l'évaluation avec l'action. Le problème des chefs d'établissement, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le temps de lire les travaux de Marie Duru. Le problème des chefs d'établissement, c'est qu'ils doivent agir à court terme et en direct devant les gens. Et donc, voilà ma question. De quoi s'agit-il ? De quelle évaluation ? Peut-on méconnaître aujourd'hui que l'évaluation est quand même, et là je ne veux pas dramatiser, parce que les sociologues le font volontiers, d'une recomposition incroyable du monde du travail ? Qui a sa face de lumière, en particulier lorsque Richard dit il y a une attention qui est portée aux individus. Hein. Et je pense que c'est un effet aussi de l'évaluation que de considérer les individus, leur activité, etc. Mais qui a sa face sombre également, qui est cette responsabilisation des individus, et évidemment parfois... des jugements, si vous voulez, ou une obsession des chiffres qui n'a mais strictement rien à voir avec ce qui a été décrit ici sur des temporalités longues et avec une complexité. Donc je terminerai sur le métier de formateur. Le métier de formateur est-il un métier impossible? Bon, on l'a dit, Freud l'a dit, des enseignants, des psychanalystes et des hommes politiques, donc ne nous affolons pas. Mais c'était un titre pour fédérer un certain nombre de remarques. D'abord, comme dans tous les métiers de l'humain, je pense qu'on peut identifier des effets de miroir. Moi, je l'ai fait entre enseignant et élève. Hein. Comment enseignant et élève ont des symétries et des asymétries dans leur travail. J'ai trouvé que le formateur de Dominique avait très envie de voir Dominique progresser pour voir l'image de son travail de formateur. Et on a discuté en atelier, moi j'avais pas trouvé super évident qu'elle était bien meilleure la deuxième fois. Bon, on peut s'en convaincre, hein, et puis lui-même le dit, mais c'est ses effets finalement, l'image de ce que l'on fait, c'est l'activité de l'autre. C'est vrai pour les enseignants, d'où leur tendance au pessimisme lorsqu'ils se retrouvent devant des copies qu'ils trouvent trop médiocres, etc. Qu'ils trouvent trop médiocres parce qu'ils ont jugé d'après le relationnel. Et dans le jugement du formateur, d'ailleurs, on se dit qu'il y a à la fois un jugement sans doute sur la classe objective, mais aussi un jugement sur le relationnel, son impact, les conseils qu'a donné le formateur. J'ai retrouvé toutes ces journées ce que Pierre Merle, qui a travaillé sur l'évaluation, qui est sociologue, appelle le dilemme entre l'arbitre et l'entraîneur. L'enseignant est à la fois entraîneur et arbitre, comme le formateur, que j'ai trouvé malgré tout plus entraîneur qu'arbitre, en tout cas dans les séquences qui nous ont été montrées. J'ai trouvé qu'il s'ouvrait un continent de recherche. Les gestes professionnels identifiés par Anne Jorot, je pense que tu l'as peut-être déjà fait, j'en sais rien, pour les enseignants, peuvent aussi être tout à fait identifiés pour les formateurs, avec un certain nombre de gestes éthiques aussi, très certainement. Hein. Justement, avant de venir, une formatrice de l'UFM de Lille, qui est une amie, m'a raconté comment elle avait fini par intervenir dans la classe elle-même, avec un jeune enseignant qui se cachait derrière sa préparation. Elle lui avait dit 4 fois de ne pas se cacher derrière sa préparation et elle a fini par violemment intervenir devant les élèves. Ce qui, me semble-t-il, est problématique du point de vue de l'éthique de la relation, mais qui a été efficace. Hein. Il a enfin lâché sa feuille et me dit, la formatrice, il a fait le meilleur cours qu'il n'a jamais fait. Donc ça, je n'en sais rien. Donc un chantier s'ouvre peut-être sur cette analyse du métier de formateur. Je dirais aussi que j'ai trouvé... finalement, 2 définitions un peu fortes, un peu synthétiques de ce métier de formateur. Une que je trouve vraiment forte, jolie, c'est que le formateur gère l'écart entre le pôle idéal du travail et la réalité. Il gère vraiment ce rapport entre idéal et réel du travail. Alors, je pense qu'il n'est pas forcément équidistant de l'un et de l'autre, suivant les formateurs. Hein, j'en sais rien. Hein. Et ça peut être intéressant. Et à un moment où le pôle idéal du travail, il y a un très joli travail d'une sociologue du travail, ouf de foi, Marianne Dujarrier, sur l'hôpital et le commerce, qui montre que on est aujourd'hui devant un pôle idéal du travail qui s'épaissit, en particulier à cause de l'évaluation, justement, des démarches qualité, de tout ça, quoi. Alors, quel est le positionnement du formateur? On doit pouvoir le voir, hein, plus proche de ce pôle idéal, plus proche de la réalité. Un point que j'ai envie de dire, qui a été donné dans un atelier, c'est que dans cette réalité, on n'a pas beaucoup entendu les formateurs du film parler du contexte. Décrire le contexte de l'activité, c'était particulièrement vrai pour cette femme, cette jeune femme qui gère à la fois des CM1 et des CE2. Et il n'a jamais été parlé que ce contexte était particulièrement difficile. Donc ce qu'un sociologue appellerait la socialisation des difficultés, cette classe est composée de tant d'élèves qui sont très difficiles, qui ont-elles passé, etc. Je trouve que dans ce pôle de la réalité, là, ça n'a pas été forcément fait, mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Et puis, je trouve que la deuxième caractéristique du formateur tel que je l'ai entendu, c'est celui qui rétablit la prescription absente, ou qui les... Alors, c'est celui-là, le vocabulaire des équipes est différent, hein. C'est celui qui rétablit la prescription absente, mais qui l'aménage aussi, qui l'interprète, et peut-être, dans le cas de l'équipe d'Aix-Marseille, qui en discute, et qui en fait un objet de controverse. Ce qui a soulevé quelques questions. Donc, entre idéal et réalité, mais aussi avec cet aménagement et cette interprétation de la prescription. À ce niveau-là, je voudrais interroger la question du référentiel, qui restait un point un peu aveugle des débats. Quel est le référentiel ? Anne a bien souligné qu'un acte d'évaluation était une comparaison avec un référentiel. Quel est ce référentiel ? Est-il celle de l'institution ? Dans l'équipe de Richard, on suggère que c'est aussi le référentiel personnel du formateur, fait d'après son expérience, d'après ses convictions éthiques. Quel est-il ? Est-ce que le stagiaire le connaît ? Est-ce qu'il est explicité ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des recherches ici à mener sur précisément ce référentiel qui soit implicite ou explicite. L'activité de formation est-elle délibérative? Est-elle une manière d'entrer dans les controverses du métier? Je pense que ça peut être un point de discussion entre les équipes aussi. On peut dire aussi qu'entrer dans un métier, c'est entrer dans un certain nombre de débats, et de débats y compris sur les prescriptions. Avec cette position très particulière de l'enseignant, hein, qui est un exécutant autonome, exécutant des prescriptions, mais avec une telle marge d'autonomie qu'effectivement, le problème peut se poser. Je terminerai sur cette idée, et c'est le bon côté de l'évaluation, même dans le cas que j'ai observé des chefs d'établissement. Je finirai sur la réflexivité, hein, sur cette formidable sphère réflexive, je dirais, qui se constitue dans ce que les sociologues appellent la régulation intermédiaire des systèmes éducatifs. Et que Christian Marois, dans une enquête internationale, a observé partout en Europe, cette sphère de régulation intermédiaire dans les organisations post-bureaucratiques, ce sont à la fois les cadres, les formateurs, les conseils, des chargés de missions diverses, hein, qui ont en commun cette régulation, précisément, des systèmes qui ont une action propre et qui ont en commun aussi de métisser des savoirs experts, des savoirs de recherche et des savoirs d'expérience. Et je voudrais terminer sur ce point et qui ont en commun de nourrir des institutions capables de réflexivité, d'adaptation, ce qui est quand même le point très positif de tout ça, me semble-t-il, parce que pour moi, il va avec de la délibération politique et de la controverse, je ne vous le cache pas, même si, ce n'est pas toujours le cas dans les établissements actuellement. Je voudrais revenir aussi sur les formateurs qui sont entre ces savoirs de recherche et ces savoirs d'expérience et faire allusion à la trajectoire d'un certain nombre d'entre vous dans cette salle, qui étaient enseignants, instituteurs, il me semble, pour la plupart, qui étaient maîtres formateurs, dans une peut-être équidistance à ces deux types de savoirs, et qui sont devenus enseignants-chercheurs, et qui donc, évidemment, ont une trajectoire qui me semble révélatrice aussi de ce qui se passe dans ces professions de régulation intermédiaire, qui sont parfois des phases de carrière où on peut aller dans un sens ou aller dans un autre. On peut aussi retourner au métier d'enseignant, cela peut arriver. Voilà, je terminerai sur cette circulation absolument nécessaire, en espérant que ce qui nous attend institutionnellement sur le plan de la formation des maîtres, saura accueillir encore des moments tels que ceux que nous avons vécus ces deux jours, parce que je pense qu'ils sont très importants pour tout le milieu au sens général du terme, et puis pour chacun d'entre nous. Voilà.